autres acteurs de la région non partenaires voient ça. Je pense à la Chine, je pense aux autres. Là.
Ça dépend de qui on parle. Au niveau de la Chine, je ne suis pas un expert, je ne lis pas le chinois.
Ping-chang.
Ouais, on a un expert sur la Chine ici, c'est la personne à qui poser la question parce que, en fait, ils font un peu leur. À date, ce que moi j'en comprends, c'est qu'ils font leur truc de leur côté. Ils font leur truc avec la NASA, avec l'accord Corée-Japon-Chine. J'ai pas vu de ligne officielle de parti qui critiquerait le TPP. On ignore ce qui se passe. Au niveau des autres acteurs, les réponses sont très diversifiées. Ça dépend à qui on en parle. Je pense que, comme on l'a vu plus tôt, il y a vraiment une ouverture de la part de la plupart des pays asiatiques pour se joindre à ce genre d'accord-là. Le Japon a décidé de faire un virage important dans sa politique commerciale et de se joindre au TPP. La Corée a signé un accord de libre-échange avec les États-Unis en 2011. Techniquement, le cadre TPP, c'est le cadre Corée. La Corée, présentement, se concentre ailleurs, mais dès qu'ils veulent, ils peuvent rentrer dans le TPP. Ça va être très, très, très facile à harmoniser, essentiellement. Pour ce qui est des autres pays de la NAS, la plupart sont intéressés à s'y joindre. On a presque tout le monde. Je pense que la réponse à date, il y a vraiment une volonté politique d'aller de l'avant avec le partenariat transpacifique. Autant en Amérique qu'en Asie.
Oui, je donnerai la parole pour votre réplique.
Moi, je suis un peu inquiet, là. On est à la porte Baudenouille. Après ça, on n'aura plus de bol. Je sais pas ce qu'on va voir. Oui, bon, il y a 2 semaines, l'Union de l'Europe a commencé une négociation de libre-échange avec les États-Unis. Donc, l'Occident, la totalité de l'Occident devient une seule unité. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Alors, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud sont exclus. Donc, ça devient une espèce de concurrence entre plus forts et plus faibles. Ça va où? Je pense que mon collègue a bien signalé le problème, c'est que TPP, enfin c'est un mécanisme politique qu'économique. C'est un mécanisme qui a pour but d'affaiblir l'influence de la Chine en Asie. C'est ça. TPP, ça ne marchera pas. Comme il y a pour trop de litiges, le Japon jamais. L'agriculture, si TPP marche, il faut qu'on exclue le secteur agricole au Japon, sinon ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas vraiment libre-échange. Libre-échange boiteux. Ce qui m'inquiète là, il souligne tout à l'heure, l'Occident va imposer les règlements de commerce, imposer tout le système de transition économique basé sur la valeur de l'Occident. L'Orient n'est pas prêt du tout pour ça. Ok, pour la Chine, M. Xi, là, qui vient de devenir président, chef d'État, il a dit hier, dorénavant, la Chine va viser sur le marché interne, non pas un marché extérieur. C'est une population, 1,3 milliard. En soi, c'est un continent. Mais je pense que M. Xi, il fait d'illusions. De nos jours, on ne peut pas marcher avec le marché intérieur, il faut s'ouvrir. Il y a le dilemme ici. Alors, ce problème de valeur, si l'Occident impose le règlement de commerce, l'Asie ne pourra pas suivre. L'Asie va dominer. Donc, le décalage entre l'Asie et l'Occident, qui était très grand, depuis la montée des Chines depuis 40 ans, ça rétrécit un peu, ça va encore s'ouvrir, d'après moi. Où va-t-on alors? Libre-échange est bon, mais régionalisation, c'est une espèce de protectionnisme régional. Donc, voyez-vous, ancien protectionnisme est remplacé par un nouveau type de régionalisme, protectionnisme en faveur de l'Occident. aux dépens de l'Asie. OK? Alors, je vais poser la question, où va-t-on? Qu'on va dire ça? Où va-t-on? On dit qu'on va dominer, mais on va à l'économie mondiale. Moi, ça m'inquiète vraiment.
Hein? Est-ce que vous ne pensez pas que le développement de l'économie post-Deuxième Guerre mondiale a été essentiellement occidental?
Absolument.
Et tout le mouvement de libéralisation, GATT-OMC, est piloté par les États-Unis. Moi, je perçois, dans le fond, la volonté des États-Unis d'aller de l'avant avec à la fois le partenariat transpacifique et l'accord transatlantique comme simplement un moyen de contournement. Qu'est-ce qui ne marche pas à Doha? C'est la Chine puis les grands émergents. C'est pas grave, on les met de côté. On signe avec ceux qui veulent signer. On va avoir la triade Japon, États-Unis, Europe dans un ensemble qui de libre-échange qui dépasse le cadre de GATT-OMC. On continue le même mouvement de libéralisation que j'ai entamé depuis 40 ans.
Le Japon n'est pas partie de l'Asie. Le Japon fait partie de l'Occident. Dans la mentalité, dans sa politique, dans sa perception. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Alors, on se contredit, j'étais pas là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Plus ou moins.
Ensuite, c'est pour ça qu'il y a très profonde méfiance contre la Chine, le Japon. La Chine, le Japon fait partie du TPP. On est cuit en Asie. On est vraiment frites. Comme patate frite. Alors là, moi, j'ai le développement du libre-échange, je n'aime pas du tout. Et ça va créer plus de problèmes que de solutions du monde, d'après moi. C'est pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que je me trompe? Ouais.
C'est qu'on est quand même dans une nouvelle phase du libre-échange, quand même, qui n'est pas uniquement la libéralisation de l'échange des marchés, c'est-à-dire comment l'exportation de produits ou l'importation de produits. On est quand même dans une phase où maintenant, où c'est la production qui est délocalisée.
Donc, il y a trois niveaux, libre-échange, marchandises, c'est pas problème. C'est déjà fait. OK, au Japon, presque pas. Singapour, il n'y a plus de télé. Deuxième service. Troisièmement, le reste. Propriété intellectuelle, coopération économique, développement économique. C'est ça le problème. Là. Si vous limitez votre libre-échange, premier niveau, aucun problème, ça va. Mais ce que Corée a fait avec les États-Unis, on va jusqu'au bout. Tous les trois. Je suis québécois d'origine coréenne, là. Mais la Corée n'a pas le pouvoir de marchandage avec les États-Unis. Et donc, le système américain s'impose en Corée. Là. C'est déjà commencé. Compagnie d'assurance, et banque, puis même manufacture. Ce sont des normes américaines, non pas coréennes. Coréens doivent s'y ajuster. Ben là, c'est pas facile. C'est ça. Alors, donc, je ne sais pas, vous êtes tous experts. Moi, je suis inquiet, d'accord? Quelle est la solution là? Ben, je vous pose la question, Larsen.
Pour moi, je suis pas un expert sur chacun des pays, mais c'est évident qu'on ne fonctionne pas seulement sur le même pied d'égalité. Les États-Unis, c'est quand même une superpuissance, quoi qu'il y en ait certains qui diront dans les mêmes, mais peu importe. Mais je pense quand même que la Chine, j'imagine le Japon, peut-être la Corée seule n'a pas les moyens, mais je pense quand même que sur une table de négociation, c'est plus vrai que la Chine, les États-Unis dictent l'ensemble des règles et tout le monde fait oui, monsieur. Je pense que il y a un rapport de force qui n'est plus le même et qui est en jeu ultimement. C'est pas nécessairement d'avoir un accord ou non, c'est est-ce que cet accord-là est capable de profiter à tout le monde? Parce qu'on sait que les États-Unis, historiquement, ont signé des accords qui étaient très asymétriques. Profitent à l'un, et eux, ils gardent, par exemple, une protection sur l'agriculture. Ils demandent aux pays en développement de libéraliser l'agriculture, mais nous, on a le droit de faire des subventions, etc., etc. Alors, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, il y a... Je ne dis pas que c'est égal, mais je pense qu'il y a quand même un rapport de force qui est
qui n'est plus aussi inégal qu'avant. Et pour moi, je ne dis pas que c'est porteur d'espoir, mais je dis que peut-être qu'on va assister à des négociations plus longues que d'habitude, justement, à cause de ça. Mais je pense qu'il y a comme un rééquilibrage, en fait, qui va peut-être pas permettre à l'Asie de s'élancer, de dominer, mais qui va au moins lui permettre d'avoir quelque chose, d'avoir un retour. Mais j'avais une question aussi, si on peut, au panel au complet. Le régionalisme, il y a beaucoup d'accords régionaux, le bol de nouilles en Asie. Pour moi, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de déclarations, pas grand-chose au bout de la ligne en termes de réalisation concrète. Moi, j'attribue beaucoup ça à ce fameux type de régionalisme ouvert. Ouvert étant peu de contraintes, et donc l'avantage est adhérent ou non, est assez mince. Le seul principe qui alimente ce régionalisme-là est du type exemplaire. Nous, on va se libéraliser, on va en profiter, donc on va devenir plus performant que toi. Toi, tu vas suivre notre modèle. Les États-Unis ont un modèle, comme je l'ai si bien dit, plus réglementaire avec des contraintes. Donc, un principe ici, là, les noms des mots, à adhérer ou non. Donc, ma question, en fait, de base, c'est est-ce que le régionalisme ouvert est quelque chose qui peut fonctionner? Le modèle asiatique de régionalisme sans contraintes, sans institutions, est vraiment un régionalisme où c'est juste dans le fond des paroles, etc. Alors que, sans dire que le modèle américain, c'est tant qu'eux veulent imposer des règles, mettons le modèle occidental, si tu veux, institutionnalisé, qui impose des règles à l'un et l'autre, le débat sur la nature de la forme des règles, c'est un autre débat. Mais juste le dire de, il faut qu'on s'entende sur des règles à respecter, d'avoir des contraintes, c'est pas la seule avenue pour avoir un régionalisme.
Je vais répondre, les Asiatiques sont tous des eurosceptiques. Ils sont prêts à intégrer au niveau économique, mais au niveau politique, ils sont contre toute forme d'institutionnalisation et de légalisation qui serait contraignante. Les Asiatiques sont très, très jaloux de leur souveraineté. On peut le comprendre. Un pays comme Singapour, c'est un pays depuis 1964-65 qui est indépendant. Donc, c'est des pays qui sont, j'aime pas dire le mot jeune, mais en guillemets jeunes, dans le système international contemporain. Et donc, c'est des pays qui sont prêts à s'intégrer au niveau économique. Hein. Il y a aucun problème là-dessus. Mais au niveau politique, au niveau de jure, ça ne peut pas avancer. Donc, on reste dans le régionalisme ouvert. On va toujours rester dans le régionalisme ouvert. On doit dépendre d'accords économiques, d'accords commerciaux. Et de coopération économique. On n'ira jamais dans la direction, par exemple, de l'Europe ou même de l'Amérique latine. Je ne pense pas. Puis en même temps, la question de la légalisation... Mais la question de la légalisation est en train de changer. Il y a une tendance à un niveau... d'accepter un certain niveau de légalisation que dans les années 90, on refusait. On a juste à comparer le papier de l'accord de libre-échange de l'ASEAN qui faisait 20 pages, et celui de l'année-là qui en fait 1000. Aujourd'hui, les choses commencent à changer, puis les accords de libre-échange, c'est précis. Hein. Et donc, on est capable, parce que si on est capable de s'entendre sur des règles qui sont quand même assez claires, sur certain respect de ces règles-là, on peut atteindre une forme de régionalisme qui va être très différent d'ailleurs dans le monde, qui va rester ouvert, qui va rester beaucoup plus large, on pourrait dire, au niveau légal et politique. Mais ça, moi, d'après moi, il y a une possibilité, il y a un avenir là, tout à fait possible. Mais c'est particulier.
Est-ce que quelqu'un qui voudrait ajouter là-dessus?
Ben, j'ajouterais peut-être très rapidement que, d'après moi, les formes d'accords de libre-échange s'adaptent aux réalités de l'économie qui en font la promotion, en fait. En Asie, on propose des accords en surface parce que les économies sont intégrées comme ça. Les entreprises, c'est des chaînes de valeur, c'est des chaînes de production. On achète des pièces, c'est beaucoup de la marchandise qui bouge. Il n'y a pas tant que ça d'investissement, il n'y a pas tant que ça, si on compare par exemple à l'Europe ou à l'Amérique. Les États-Unis proposent un modèle qui correspond à leur économie. C'est un modèle qui est plus intrusif dans les règles des autres pays. C'est un modèle qui est basé sur le respect des droits de propriété intellectuelle, etc., etc. C'est pas des préoccupations qui aujourd'hui sont très fortes en Asie. C'est l'observation que je ferais par rapport à ça.
Allez-y.
Bon, alors, le mobile, on peut se joindre pour un pays, là, enfin, organisme régional de commerce. Ce sont des pays très souvent qui ne sont pas compétitifs. Étant faible, il fait partie d'un groupe, espérant que le groupe va faire quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Prenons l'ASEAN par exemple. Il y a deux effets, création du commerce et diversification du commerce. Et puis il y a le développement économique. C'est comme ça, l'économiste mesure là, l'effet du libre-échange. Et création du commerce intérieur, c'est pas grand chose par rapport à la diminution du commerce avec l'extérieur. Alors pourquoi alors les journalistes? Mon collègue a souligné que l'ASEAN, il n'y a aucun pays qui va céder souveraineté nationale. Donc ce n'est pas vraiment les journalistes. Hein. C'est un quoi, club social, le premier ministre ou le premier ministre des Finances se rencontre chaque mois puis boit des bières ou saké. Alors, l'ASEAN comme unité, ça ne vaut pas grand-chose, après moi. Là. Je suis très pessimiste par rapport à vous autres. J'ai fait ça un peu exprès là, pour stimuler le débat. Mais, même la Chine, quand vous voyez l'intérieur de la Chine, il y a beaucoup de contradictions, okay? Disparités là vaste. Je me demande jusqu'où la Chine va survivre. Il veut la chaîne de production si au fond se déplace vers l'Afrique, vers l'Amérique latine. Ah ben, qu'est-ce qu'il va arriver à la Chine après? D'où je pense que si c'était le commerce, GATT suffit. On peut faire utiliser le règlement des GATT, là, ça peut régler le commerce de marchandises, mais le reste, trois des parties, droit de propriété, et puis compétition, tout le reste. C'est ça qui est problème en Asie. On impose, on n'est pas prêt pour ça, à cause des valeurs de l'Asie.
Oui, pour répondre aussi aux questions de M. Saclay, c'est quoi l'attitude de la Chine vis-à-vis du TPP? La Chine surveille de près, surveille de tout, sauf épidémie. On vient de ça, on est tous d'accord que la Chine ne surveille pas l'épidémie, mais la Chine est très attentive sur cette question, mais le problème c'est différent la situation par rapport avec la Chine essayer d'entrer en OMC ou la Chine essayer de conquérir l'Afrique ou faire plaisir à un pays d'Amérique latine. C'est chez eux. Donc, ils attendent là pour voir ceux qui sont venus sans être invités vont faire quelque chose à me proposer. Donc, pour les Chinois, ils ont beaucoup de choses à s'occuper chez eux. Alors, on va s'occuper d'abord de notre problème en attendant de la règle plus claire que ça se passe en TPP et on va voir est-ce qu'il y aura une lettre d'invitation ou on est forcé de présenter notre volonté politique de rentrer. Tout comme il y a l'année dernière un grand manœuvre militaire de Pan-Pacifique dirigé par les États-Unis et dans les journaux, dans le gouvernement, toutes les informations chinoises, on les critique, dit que voilà, si ça, c'est sur les affaires de Pan-Pacifique, pourquoi la Chine n'est pas là dedans, mais le gouvernement ne dit rien officiellement, ni à condamner de contact direct avec les États-Unis, et cette année, ils ont été invités. Alors, quand ils ont invité, il a dit oui, on est prêt à participer, on a des marines bien équipées, on a beaucoup d'expérience, aller dans la mission de paix en large de Somalie, donc on est très content de participer. Alors, ça pourrait être le cas quand il s'agit de TPP, mais ça c'est encore notre histoire, c'est chez eux. Donc, pour les Chinois, on dit que voilà, sans moi, qu'est-ce que vous pouvez atteindre comme conclusion? Et à ce moment-là, c'est moi qui va prononcer ma demande. Peut-être c'est ça, je pense qu'elle a tout dans l'attitude.
Dernier que vous parlez. Je vais parler pour ce côté-ci du Pacifique. Dans l'initiative, il y a effectivement du bandwagoning. On se demande ce que le Chili fout-là, on se demande même ce que le Canada fout-là, on se demande ce que le Mexique fout-là. Ben, ils sont plus un peu. Hein. Ils sont plus un peu avec leur passé, leur relation intense avec les États-Unis, leur, pour ne pas dire certaines dépendances économiques. Or, on était pris un peu à contre-pied. Parce que si on regarde la structure des échanges, c'est très nord-sud. Hein. Les pays asiatiques nous envoient des biens manufacturés, puis on leur fournit les matières premières. Donc, c'est nord-sud inversé. Hein. Est-ce que ça va améliorer cette chose-là? Mais comme je disais, en temps du temps, pour vendre du pétrole ou du cuivre, tu n'as pas besoin d'un accord de libre-échange. Tu as juste besoin d'une demande. Et donc, il y a des pays qui sont un peu embarqués dans une espèce de dynamique. Puis, on a zéro rien à dire dans, comme tel. Je pense pas que le Chili ou le Mexique ou le Pérou puissent simplement arriver à certaines conditions.
Le Chili a même pensé sortir du processus TPP à cause des règles sur la propriété intellectuelle. Parce qu'ils ont dit qu'on n'a rien à gagner. On a déjà des accords avec tout le monde, dont les États-Unis, pour venir nous...
Non, parce que donc, à ce moment-là, il y a quand même aussi cette dimension-là. Hein, c'est, oui, dans un premier temps, ils disaient qu'on n'a pas le luxe de ne pas y être, mais c'est pas dit qu'après ça, ils vont dire, ben finalement, le coût est très, très élevé pour ce que je vais gagner. Et effectivement, la réaction du Chili, il y a une réflexion en Amérique latine qui va au-delà de l'ALENA, donc même du Mexique, après ça, la ceinture du Pacifique, pour justement essayer de définir une espèce de position régionale par rapport à l'Asie, hein, parce qu'il y a un déficit de compétitivité entre les deux bords du Pacifique, et actuellement, ils sont plutôt à constater qu'ils sont plutôt piégés, plutôt que du côté des gagnants. Et donc, il faut voir, parce que c'est pour ça un peu ce que le Canada a tardé. Il y a la question de l'agriculture, mais c'était pas ça qui était fondamental, en disant, ben, qu'est-ce qu'on va gagner à la fin?
Est-ce que je peux vous poser une question à tout le monde? J'aimerais m'inspirer. Comment voyez-vous la solution de la Corée du Nord?
Ah, ben c'est un autre sujet.
Non, ça fait partie des dynamiques de l'Asie. Donnez-moi vos idées. Là. Alors, je vais transmettre à Corée du Sud. Est-ce que la politique d'Obama, là, pivot de l'Asie, maintenant, il dit l'équilibre de l'Asie. C'est changé un peu le mot. Pivot, c'est-à-dire foncer. Équilibre, depuis cette année-là, il parle de l'équilibre de l'Asie. Donc, plus doucement, donc, indifférence, c'est ce que ça veut dire, la Corée du Nord. Vous savez, Kim Jong-un, c'est un jeune homme. On ne sait jamais comment il va réagir. Mais si les États-Unis attaquent la Corée du Nord, imaginez-vous, c'est un cauchemar. La Corée du Sud s'en va. La Corée du Nord va disparaître. Ça va bouleverser l'économie de l'Asie, forcément. Alors, donnez-moi vos solutions. Okay.
Il ne faut pas qu'ils attaquent, c'est tout.
C'est ça, ok, on est d'accord. Ok, ils ne vont pas attaquer. Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Pour parler à 6, là. Vous parlez à 6, c'est bullshit, ça ne marche pas. On a donné du temps, les ressources en Corée du Nord pour développer l'arme nucléaire. Donc, la Chine joue avec ça, là. C'est un jeu de la Chine pour parler à 6. Donc, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Moi, je pense que d'un côté, c'est la Chine qui va. La Chine. Elle-même n'est pas très contente du truc nucléaire.
Mais non.
Oui, avoir un pays tampon, comme vous disiez, c'est très bien. Il y a des affinités historiques, machin. Les Chinois ont volontairement été défendre la Corée du Nord. Ouais, mais avoir un pays instable nucléaire juste à côté, quand on pense que la Chine, justement, est en train d'intégrer des grands, un grand dialogue transpacifique, si on peut dire ça comme ça, l'allié nord-coréen, bien, c'est pas très lourd, d'après moi.
Ok, et bon, ma solution est la suivante. Si vous êtes d'accord, dites rien. Si vous êtes contre, dites le mot. Alors, ma solution est la suivante. D'abord, de reconnaître Corée du Nord comme pays souverain. Secondo, on va établir fédération entre Nord et Sud. Ok. Pour l'instant, tertio, développer l'économie. Autrement dit, il faut que les États-Unis parlent directement avec Kim Jong-un. autrement dit, ils reconnaissent la Corée comme un pays pour l'instant. Éventuellement, si les jeunes disparaîtront, donc Corée du Nord deviendra enfin membre respectable de la communauté internationale. Est-ce que vous aimez ma solution? Oui.
Elle est impraticable sans changement politique en Corée du Nord. Ensuite, le problème en Corée du Nord, pour moi, est un bon problème. Ça m'empêche pas de dormir la nuit. Parce que je pense que c'est purement un jeu de rhétorique. Et je pense que plus la rhétorique en Corée du Nord est forte, plus j'ai l'impression qu'il y a des problèmes internes et que ça cache un processus de réforme interne ou une tentative de réforme interne. Parce que la Chine, la Corée du Nord voit quand même le développement de la Chine à côté et veut intensifier ses liens avec le partenaire chinois. Donc je pense que c'est plutôt un effet rhétorique pour cacher ses réformes. Ensuite, est-ce que la Corée a les capacités pour attaquer? Certes, la Corée du Nord. Mais je ne pense pas que tout le pouvoir réside dans une seule personne. Une structure comme la Corée du Nord est une structure encore de parti unique. Il y a encore le pouvoir militaire, le pouvoir du parti et une série d'intérêts et évidemment l'allié chinois. Ensuite, les Chinois ont leurs hommes sur le terrain en Corée du Nord et il est clair qu'ils ne vont jamais autoriser qu'il y ait un décalage sur le bouton. Parce qu'ils savent leur intérêt les empêche de présenter. Ils savent que si la Corée du Nord attaque n'importe quel pays, ça va déstabiliser l'entièreté de l'économie mondiale. Ça, ils ne peuvent pas se le permettre. Ils vont préférer faire eux-mêmes leur propre changement de régime, je pense, plutôt que d'avoir une présence américaine sur la frontière hier, sur le papier.
Quelqu'un d'autre aussi qui n'était pas d'accord avec votre solution?
C'est une question par rapport à la dernière intervention. Une question à l'ensemble du panéliste. Compte tenu des puissances en présence, parce qu'on oublie dans l'exposé l'Inde et le Pakistan, qui font partie également du club nucléaire et qui ont des contentieux territoriaux, géographiques avec la Chine, surtout. Est-ce qu'aujourd'hui l'Asie, c'est pas l'Europe de 1913?
Ah, non, pas du tout. Pas du tout.
Il y a moins d'archipel, en tout cas.
Non.
Donc, vous êtes quelle est votre solution? C'est-à-dire, on n'attaque pas, on peut pas attaquer.
Moi, j'ai
bon, je vous remercie. Je pense que ça m'a donné une idée.
Je pense qu'il n'y aura pas de solution s'il n'y a pas de participation chinoise dans le règlement.
Absolument.
La Chine va donner dernière ou la seule solution qui correspond à l'intérêt de Corée dans une seule condition, il n'y aura pas un seul soldat américain dans le sol coréen. Alors si ça ne peut pas être fait, la Chine ne va pas faire grand-chose. Parce que n'importe qu'est-ce qu'il fait, à la fin, c'est mettre un pied sur, mettre un rocher sur des pieds. Donc c'est ça la condition préalable. On peut faire ça et je me concentre de régler ce problème avec tous vos consentements, mais entre nous. C'est ça l'attitude des Chinois. Je pense que depuis des années, ça signifie milliards d'années, la Chine a cette logique de régler des problèmes de voisinage. Tout comme ce que M. Zhang tout à l'heure parlait. Ah, c'est la Chine qui décide qui est le roi. Mais non, ça c'est formellement ou théoriquement. La Chine ne va pas intervenir ça parce que de toute façon, ils ne s'occupent même pas de leur province du Sud. Ils ne sont pas capables de vraiment intervenir dans la politique coréenne. Mais la Chine garde toujours cette idée que c'est moi qui dois dire le dernier mot dans ma région. Alors si on essayait de ne pas faire quelque chose comme une geste sympathique de consulter la position, l'attitude chinoise, ça va tourner très mal. C'est tout comme, même si c'était une réaction de suite à cause de le bombardement de l'île de Pyongyang. Et la Chine est très fâchée parce qu'elle dit que vous faites des manœuvres militaires devant ma porte où je vais poser ma face. Les Chinois pensent que c'est très important de ce point de vue. Je pense que les Coréens connaissent très bien ce jeu, les Japonais aussi. Donc, si on pense que la Chine, aujourd'hui, c'est comme la Chine des années 95-96, on peut encore poser notre porte-l'avion devant chez eux pour régler le problème. On est un peu naïf. Donc, c'est mieux d'avoir... Je pense que pour parler de six parties, même s'il n'y a pas trop d'effets, il faut quand même garder Sinon, on coupe des lignes d'élevement partout. Combien de lignes on peut couper encore? Et une fois arrive à... OK, on ne trouve plus une ligne à coupler, on va appuyer sur un bouton pour démarrer la guerre. Alors ça, c'est la dernière situation qu'on veut voir. Alors, je pense que c'est mieux d'engager plus activement la participation chinoise dans la solution.
Puis il ne faut pas oublier aussi qu'en Corée, en Corée du Nord, au début des années 2000, il y a eu une ouverture, hein. Une petite libéralisation économique, une croissance économique hein, qui a même atteint peut-être 10% pendant quelques années. Mais on est revenu en arrière à partir de 2005, on est revenu à une rhétorique encore plus conservatrice de ce qui existait avant. Et je pense qu'on s'est aperçu que cette libéralisation économique, on pensait au début des années 2000, enfin la Corée du Nord va prendre la voie de la Chine. On s'est aperçu que la libéralisation économique affaiblissait l'idéologie. Et c'est un régime qui repose essentiellement sur l'idéologie. Et donc, on est revenu en arrière et en même temps, on avait Bush qui faisait des menaces constantes. on va vous traiter de la même façon que vous le traitez en Irak. Et donc, il y a eu cette peur-là. Puis on est revenu aux vieilles peurs du grand-père Kim Il-sung qui disait « On n'a jamais assez d'armement. On n'a jamais assez d'armement. Et on est toujours seul dans ce grand monde. Hein. Il faut assurer notre sécurité nous-mêmes. » Et donc, il y a eu un repli hein, sérieux au sein en Corée du Nord. Avec la mort de Kim Jong-il, ça a ouvert la porte à peut-être une lutte au sein du régime. Et d'après moi, cette lutte-là, comme tu disais, elle existe encore, elle n'est pas finie. Et Kim Jong-un a deux frères. Dans les journaux japonais, on a fait mention de rumeurs, étant donné qu'il y a des frères qui étaient vraiment insatisfaits. Un des deux, qui était probablement le plus vieux, qui était très insatisfait du fait que son petit frère il avait coupé les vivres et ainsi de suite. Et il voulait marcher sur Pyongyang. Et donc, il y a encore probablement des forces à l'intérieur de la Corée du Nord hein, qui sont en train de décider peut-être que c'est pas Kim Jong-un qui devrait être le leader suprême. Hein. Mais en retour, qu'est-ce qui s'est passé en Corée, c'est que, étant donné que le régime repose seulement sur une idéologie, l'idéologie du Juche. On est allé encore plus loin, on a sanctifié le régime. Hein. Mm-hmm. Maintenant, le grand-père, c'est le grand-père éternel, on prie devant sa tombe. Et donc, on a sanctifié le régime, ce qui fait que la succession devrait revenir toujours à un descendant des Kim, comme tu disais. Il n'y a pas encore d'enfant. et donc peut-être qu'ici, s'il y a une lutte de pouvoir, c'est à l'intérieur de la famille Kim, d'après moi. Puis le parti des travailleurs en Corée n'a plus beaucoup d'importance. On n'est pas comme à l'époque de la Chine, où que le parti jouait un rôle important dans la société. Le parti des travailleurs en Corée du Nord, aujourd'hui, c'est un parti qui ne fait que supporter, soutenir le régime. C'est pas un lieu. Et aussi, le pouvoir, maintenant, est à l'intérieur de la commission militaire. C'est là le centre du pouvoir. C'est l'armée qui contrôle tout. Et donc, c'est pour ça qu'on voit seulement des images de Kim Jong-un avec l'armée. C'est là le pouvoir. L'armée possède tout, contrôle tout. Et donc, on a un pouvoir hyper militarisé. Et dans cette optique-là, je pense que c'est des acteurs très rationnels. Puis je pense pas, comme tu disais, qu'il y aurait... C'est de la rhétorique. Des acteurs très rationnels qui, je pense, qui vont attaquer ou aller assez loin pour provoquer les Américains ou les Sud-Coréens à ce niveau-là.
Oui, mais de toute façon, ils mangent une volée.
Ben, c'est ça, tout à fait. C'est pas cool. Et ça ne veut pas dire qu'à cause qu'ils ont de l'armement nucléaire, qu'ils sont capables de...
Que des armes.
La semaine passée, Kim Jong-un a nommé la Park Dong-do premier ministre. C'est un économiste capitaliste. Donc, c'est un signe assez encourageant. D'autre part, il a l'école menée par l'Église canadienne, polytechnique. Là, on enseigne en anglais uniquement. Il y a certains signes d'ouverture. Si c'est le cas, si c'est une hypothèse valable, n'est-il pas raisonnable que les États-Unis reconnaissent la Corée du Nord et puis établissent une diplomatie normale? Si c'est le cas. Donc, en faisant ça, peu à peu, la Corée du Nord doit s'ouvrir. Mais faites attention, il ne faut pas déranger le régime comme tel pour l'instant. C'est pas un régime socialiste, c'est pas un régime capitaliste, c'est un culte personnel, c'est une dynastie impériale. Alors donc, on ne veut pas déloger féodal. Pour l'instant.
Hein? C'est presque féodal.
Presque féodal, mais pire dans ce sens. Hein.
Je vais laisser, mais je prends le temps de vous remercier. Évidemment, je pense que c'est intéressant. Puis, ça a été parti sur un débat là, sur les affaires coréennes. Donc, merci encore d'être venu. Puis, j'espère que vous avez aimé les exposés. Merci.